vient de près, mais elle vient dans les assiettes. Et quand elle était dans cet état, elle était à la fois violente et obscène. Et tous mes souvenirs d'enfance, ce ne sont que des scènes de violence, de vaisselle cassée et de vitres brisées. Le soir, on s'enfermait dans la deuxième pièce et on dormait à quatre dans un grand lit de fer, mon père aveugle, mes deux frères et moi. Et papa installait une grosse corde qui allait du pied du lit jusqu'à la poignée de sa porte. Et toute la nuit, elle cognait, elle hurlait, et nous n'avions qu'une peur, c'est que cette porte s'ouvre. Et ce qui est entré en moi pendant toutes ces années, c'est la honte. Parce que tous mes camarades d'école étaient au courant de ce qui se passait chez nous. Et lorsqu'ils passaient devant notre maison, eh bien, ils le voyaient, toutes les vitres qui étaient cassées. Et si on les remettait en place, eh bien, deux jours plus tard, c'était la même chose. Malgré ce que je vivais, j'étais un enfant pieux. J'aimais déjà le Seigneur Jésus. Et il est vrai, j'avais l'exemple de mon père. Je le voyais qui, chaque soir, se mettait à genoux au pied du lit et il priait. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir un instituteur qui nous parlait de Dieu avec un tel enthousiasme que je crois qu'il m'a communiqué cet enthousiasme. Toujours est-il que dans mon cœur d'enfant, j'avais le désir de servir Dieu. Et pour moi, servir Dieu dans le milieu où j'étais, ça voulait dire être prêtre. Et j'ai grandi avec cette idée et ce désir qu'un jour je serais prêtre. Et quand j'ai eu 10 ans et demi, bien, il s'est agi d'entrer dans un petit séminaire. Et tout naturellement, on m'a présenté au petit séminaire du Mans. Et là, je n'ai pas été pris, parce que je suis fils de divorcé, et que c'était un cas d'empêchement majeur pour accéder à la prêtrise, avant le concile de Vatican II. Bon, ça me passait un peu au-dessus de la tête, bien sûr, tout ça, mais un jour, on m'a dit, Jean-Claude, tu vas pouvoir rentrer dans un petit séminaire, mais à Tours. C'était en 1955. Donc en 1955, j'ai quitté ma famille et mes amis, et je suis entré à 80 km de là, donc à Tours, dans un petit séminaire. Et là, j'ai fait de bonnes études secondaires, j'étais passionné par les études, et j'ai reçu une bonne formation humaine et spirituelle. Et dans mon esprit d'enfant, je croyais que désormais la voie était toute droite tracée. Je n'avais pas compris que l'on m'avait mis là provisoirement, pour que je ne perde pas de temps pour mes études. Mais un jour, alors que j'étais en classe de première, le directeur m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Jean-Claude, tu es grand maintenant, il est temps que nous nous occupions de ton problème. » Je croyais que cela était fait. Et il a monté tout un dossier, en fait une demande de dispense, qui a été envoyée à Rome et qui est revenue quelque temps plus tard, barrée d'une mention refusée. Pour moi, cela a été une terrible épreuve, parce que, d'abord, je ne m'y attendais pas. Et j'étais un excellent élève, et puis j'avais en moi vraiment le désir de servir Dieu. Et le couperet tombe. Et je ne comprenais pas, bien sûr. Et le directeur m'a dit, Jean-Claude, il faut que tu nous quittes. Et c'est la mort dans l'âme que j'ai quitté cette maison. Et pour terminer mes études, on m'a trouvé une place de surveillant dans le collège, dans lequel je vais rester jusqu'à ma retraite ensuite. Mais quand j'ai quitté le petit séminaire, j'avais là une terrible blessure. Je me suis replié sur moi-même et je suis devenu d'une timidité maladive. Et pour tromper un peu tout ça, je me suis mis à écrire, c'est-à-dire à rechercher des correspondants et des correspondantes dans le monde entier. Et très vite, j'ai eu une douzaine d'amis sur les 5 continents. Et je passais beaucoup de temps à échanger idées, timbres et cartes postales. Et puis un jour, j'ai voulu avoir d'autres correspondants. Alors j'ai refait passer une petite annonce dans un petit journal. Et j'ai reçu une quinzaine de réponses. Mais parmi toutes ces réponses, il y a une lettre qui n'était pas comme les autres. C'était une lettre qui provenait d'une jeune fille de l'île de la Réunion. Et c'était une longue lettre dans laquelle elle me racontait son enfance et son adolescence qui avait été bien plus douloureuse que la mienne encore. Et elle me racontait cela avec tellement de vérité, tellement de sincérité. Entre autres, elle me disait des choses difficiles à lire dans une première lettre, qu'à 16 ans, elle avait été fille-mère, et que même elle était allée en prison. Quand j'ai lu sa lettre, j'ai éprouvé une certaine compassion pour tout ce qu'elle me racontait. Je réfléchis un peu et je me suis dit, je vais aider cette fille. Et pour l'aider, je l'ai épousée. Voilà. C'est ainsi que j'ai connu Rita. On a continué notre correspondance, mais très vite, bien sûr, la compassion que j'avais ressentie pour elle est devenue autre chose. Je rêvais d'elle, mais je ne la connaissais encore que par photo, bien sûr. Et rien ne laissait prévoir qu'elle puisse venir en France avant longtemps, parce qu'elle était issue elle-même d'un milieu extrêmement modeste. Mais, Dieu aidant, Rita a pu venir en France et elle est arrivée à Orly le 1er mai 68. 1er mai 68, tout était bloqué en France et je n'ai pas pu aller l'attendre à sa descente d'avion. Et ce n'est que le 16 juin que je l'ai rencontrée pour la première fois et que j'ai su que c'était bien elle que le Seigneur m'avait mis à part. C'était le 16 juin. Et le 30 août, je l'ai épousée. Donc c'est allé très vite. Et ça va continuer d'aller très vite, puisque 5 ans plus tard, nous avions 6 enfants. Et 100 jumeaux.
Alors, quand vous voyez les voies de Dieu sont vraiment impénétrables. Je vous salue aussi tous dans le nom de Jésus. Et si vous êtes là aussi, c'est par hasard aujourd'hui. Comme moi, je ne suis pas hasard que je sois là. Parce que ce que Dieu a fait dans nos vies, un jour, je lui ai dit, je veux le dire dans le monde entier, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, qu'il vous bénisse abondamment, toutes celles qui sont ici présentes aujourd'hui, parce que je peux vous dire que si vous êtes là, il y en a un qui nous a précédés, c'est notre Seigneur Jésus qui était là avant nous. Amen. Voilà. Moi, Jean-Claude, il vivait dans une case dans une petite maison en bois. Moi, je vivais dans une case en paille. Et là, il y a quelques jours, je viens de revivre. J'ai revécu toute mon enfance en Centrafrique. Et comme ça, Jean-Claude a vraiment vu dans quel état et dans quelles conditions que j'ai vécu quand j'étais petite. Parce que j'avais une case en paille, j'étais en terre battue, il n'y avait ni eau ni électricité. Et en Afrique, je peux vous dire qu'on était dans le noir complet. Parce que c'est vrai que il y avait ici, on a une très belle salle, il y a la lumière, il y a un micro, il y a l'électricité. Là-bas, dans les salles de réunion, il n'y a ni lumière ni électricité, il n'y a pas de micro. Mais quelle joie! Et quelle foi de ces gens qu'on a rencontrés. Pauvres, mais alors heureux, une joie, heureux de vivre, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Voilà, moi j'étais donc une enfant, j'aurais aussi pu être très heureuse dans ma case en paille, mais par Jean-Claude, il a vécu la souffrance par sa maman, et moi j'ai vécu une grande souffrance par mon père. Quand j'étais petite, d'abord, il n'était pas question pour nous d'aller à l'école. Mon père et ma mère ne savaient ni lire ni écrire. Et moi, j'avais un désir dans mon cœur d'aller à l'école. Et papa, il me disait, il n'y a que les fainéants qui vont à l'école. Donc, il n'était pas question d'aller à l'école, mais je lui ai tellement cassé les pieds. Et un jour, mais ça, je l'ai su longtemps, longtemps après, pourquoi mon père m'envoyait à l'école. Quand mon père et ma mère se sont mariés, à 15 jours après leur mariage, mon père est tombé gravement malade. Et le médecin qui l'a vu a dit à ma mère, ça ne relevait pas de la médecine, il fallait qu'elle voie l'exorciste du village. Et l'exorciste n'a plus rien fait pour papa, c'est un sorcier qui va le guérir. Et un jour, ben, papa il partait comme ça, trois quelques fois dans la semaine, 4-5 jours, et un jour il est revenu. Et il est revenu avec un petit livre, c'était le livre, le manuel de la sorcellerie, le petit Albert. Et là, il a dit à mon père, puisque toi tu sais pas lire, il faut qu'une de tes enfants aille à l'école pour qu'elle te le lise et que tu mettes en pratique ce qu'il avait écrit dans ce livre. Et c'est tombé sur moi. Moi j'avais cru rencontrer Victor sur papa, mais c'est lui qui m'a dit. Parce qu'en fait, quand j'ai eu ce petit livre dans les mains, quand, dès que j'ai commencé à lire, papa m'a dit, maintenant tu vas me dire tout ce qui est écrit là-dedans. Et lui, il mettait en pratique, mais toutes les maladies de la terre me sont tombées dessus. Il y avait comme une malédiction qui est tombée sur ma vie. Mais ça, je ne l'ai su que longtemps, longtemps plus tard. Alors donc, jusqu'à 14 ans, je suis allée à l'école. Et là, mon père, un jour, m'a dit, tu en sais assez, maintenant, il faut gagner ta vie. Et pour lui, aller gagner ma vie là-bas, c'était aller travailler dans les champs de canne à sucre. Mon père ne travaillait pas. C'était ses enfants qui étaient ses esclaves et lui, il nous faisait travailler, mais lui, il restait avec son fouet. Si on n'allait pas assez vite, ben, il nous tapait dessus. Et moi, j'ai reçu plus de coups dans mon enfance que de caresses, ça je peux vous dire. Et toute petite, j'ai vraiment la haine est entrée dans mon cœur déjà pour mon père, je ne pouvais pas l'aimer. Puis, comme un jour, il m'a emmené dans un champ de canne, je me suis sauvée. Et le soir, il m'a retiré l'assiette de soupe que ma mère m'avait servie. Il m'a dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Papa ne travaillait pas, mais il mangeait. C'était ça la différence entre lui et nous. Et comme j'étais devenue une bouche inutile à nourrir quand j'ai eu 15 ans, il a préparé mon mariage à mon insu, à l'insu de ma mère. Et il avait arrangé mon mariage avec une famille de Lille. Il m'est changé contre un cochon, une vache et un petit morceau de terre. Mais si mon père était têtu, moi aussi je l'étais, parce que j'étais vraiment quelqu'un de très récalcitrant. Jean-Claude, lui, petit, il aimait Dieu, il était un enfant pieux. Mais moi, Dieu, je l'avais rejeté de ma vie, parce que quand je voyais mon père, et qu'on me disait que Dieu est bon, je dis ça, c'est pas possible. Il y a une incompatibilité, dont j'avais rejeté Dieu de ma vie. Et puis, un jour, j'ai vu arriver à la maison d'une famille, qui avait 17 garçons et une fille. Et quand ce monsieur s'est levé pour demander ma main, ben de toute ma hauteur de mes 15 ans, j'ai répondu non. Et c'était sans... Il n'y avait plus rien à dire. Quand j'avais dit non, c'était non. Moi, quand je disais oui, c'était oui, mais non, c'était non. Et là, mon père m'a sorti dans la cour, il a décroché son air de bœuf. Il m'en a donné 44 coups, il m'a dit, tu cèdes ou tu crèves. Ben, je dis, papa, je crèverai, mais je ne céderai pas. Tu veux me tuer, me faire la chair à pâté, mais je ne céderai pas. Jusqu'à ce que je tombe, après, ils m'ont enfermé dans une cabane qui servait au lapin. Avec interdiction de me donner ni à boire ni à manger. Et tous les jours, il venait me voir. Il faut vous dire aussi que mes parents se disaient chrétiens, entre un gros guillemet. Parce que tout après leur petit truc passé à l'église, ils allaient aussi voir les sorciers, ma mère en particulier et papa aussi. Et donc, tous les jours, il venait me voir, il me disait que ça lui fait en créole. Je lui dis, ben rien du tout, il m'a dit, tu cèdes. Ou tu crèves. Je lui ai dit, je crèverai, mais je ne saurais pas. Donc le troisième jour, j'étais dans ma cabane. Je n'avais plus un centimètre de peau dans le dos. J'avais une fièvre à tout casser. Et j'avais surtout, je mourais de soif. Parce que sans manger, j'avais l'habitude. Mais sans boire, à l'île de la Réunion, c'est... Même ici, on ne peut pas rester sans boire. Mais c'est pas possible. Et ce jour-là, au bout du troisième jour, j'ai levé le poing vers Dieu. Et je lui ai dit, maintenant, je sais que tu n'existes pas. Parce que je lui ai dit, si tu existais... Tu n'aurais pas permis que tout ce qui m'est arrivé dessus. Et à ce moment-là, dehors, il faisait un soleil magnifique. Il faisait une chaleur épouvantable dans cette cabane. Et le ciel s'est couvert. Il est arrivé un orage, mais vraiment un gros orage, que la force de la pluie a pratiquement défoncé le toit de la cabane. L'eau est passée à travers, ça m'a mouillé, j'ai pu recueillir de l'eau. Et j'ai bu. Et en fait, notre premier livre qui était intitulé « Il était là et je ne le savais pas », c'est un petit peu par rapport à cet événement. Parce que moi, je ne savais pas à cette époque que Dieu était là dans la cabane, mais aujourd'hui, je sais qu'il était dans la cabane avec moi, parce qu'il m'a gardé. Et puis, tous les jours, mon père venait me voir, il me disait toujours la même chose, tu sais, tu crèves. Et le dimanche, ça s'est passé toute une semaine, le dimanche, il est venu me voir parce qu'ils allaient faire un pèlerinage. Alors il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ben, rien du tout. Et ben, il m'a dit, tu crèves. Et donc, ils sont partis faire leur pèlerinage. Mais il a laissé à la maison ma dernière petite sœur, et elle est venue me parler quand tout le monde était parti à travers la porte. J'ai dit, trouve-moi un bâton, il faut que je sorte de là. Et mon premier réflexe, quand je suis sortie, à l'époque, je venais d'écrire épileptique, ben, j'ai voulu me détruire la vie en avalant un tube de cardinale. Ma petite sœur m'a regardé, elle m'a dit, ce serait bête pour toi de te tuer pour quelqu'un comme papa, si j'étais toi, je m'en irais. J'ai écouté la voix de la sagesse qui sortait de sa bouche. Une voisine m'a recueillie pendant quelques jours et après je suis partie et je me suis placée comme bonne à tout faire. Quand je me suis présentée comme dans cette place, je n'avais que 15 ans, donc j'ai donné 10 francs à une dame pour qu'elle dise qu'elle est ma mère, pour que la dame elle m'emploie. Et cette dame elle m'a dit, chez moi il n'est pas question de Dieu. Alors j'ai dit, vous n'avez absolument rien à craindre parce que je suis fâchée à vie avec Dieu. Donc elle m'a embauchée, elle me donnait 35 francs par mois. Et je devais manger après le chien, mais ça, ce n'était pas un problème, puisque j'avais quand même de la nourriture, et j'avais un endroit pour me coucher. Mais un jour, pendant 6 mois, tout s'est bien passé. Et un jour, ma patronne, elle me dit, on va partir à l'île Maurice en vacances, tu restes à garder la maison, interdiction de sortir. Je lui avais promis tout ce qu'elle voulait, mais mes promesses à l'époque, elles ne valaient pas bien loin, parce que dès qu'elle est partie, ben, moi aussi, je suis sortie. Et en ville, j'ai rencontré une amie qui m'a dit, samedi, il y a un bal chez Mme Philippe, est-ce que tu veux venir? Je lui ai dit, bah non, parce que j'ai personne pour m'emmener, parce que j'ai dit, là-bas, chez nous, les filles n'allaient pas au bal toutes seules. Il fallait qu'on soit accompagnées par un parent. Puis quelques instants après, j'ai réfléchi, et j'ai dit, moi, je me suis dit, ma vie m'appartient, maintenant, je vais en faire ce que je veux. Alors, qui peut m'empêcher d'aller au bal? Je n'ai plus de parents, je n'ai plus de patron et encore moins de Dieu. Donc, personne ne peut plus m'empêcher de faire quoi que ce soit. Alors, à partir d'aujourd'hui, je décide de prendre ma vie en main. Donc, voilà, j'ai dit oui. Et je suis allée dans ce bal avec elle. Et comme dans un bal, vous savez, il y a beaucoup de garçons. Et là, quand j'étais là, je les regardais. Ils n'avaient pas de chaussures, ils étaient mal habillés, ils sentaient l'alcool. Tout ce qui venait l'inviter, je disais non. Parce que je regardais de la tête aux pieds. Et à un moment donné, au fond de la salle, il y avait un jeune homme. Lui, il était vraiment bien habillé. Il avait un costume, cravate et des chaussures. Lui, quand il est venu m'inviter, j'ai dit oui. Mais comme j'ai dit, il faut toujours se méfier des gens qui portent costume, cravate et chaussures, parce que ce ne sont pas toujours les plus honnêtes. Alors ce garçon-là, ben, je dansais avec lui. C'est rien, trop rien passé. Puis après, on a continué à se voir à plan cachette de ma patronne. Et puis un jour, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il voulait m'épouser, et tout, et moi je l'ai cru. Mais quand je me suis retrouvée enceinte, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit, tu te fais avorter ou je te cogne. Et moi je lui ai regardé, je lui ai dit, si toi tu me touches, je te tue. Et je lui ai rappelé un petit fait que mon père m'avait un jour frappé, j'avais 12 ans. Et là je ne méritais pas du tout cette correction. J'ai voulu me venger. Et un matin, lui, il était dans les champs, c'était moi qui devais préparer le repas pour l'emmener. Et comme j'ai voulu me venger, papa, il avait plein de petits flacons avec plein de poison. J'ai pris de tous ces petits flacons, je lui ai fait un truc avec de la morue, avec du piment et des tomates. J'ai mis tous les poisons que j'ai trouvés dedans. Et j'étais allée pour le porter au champ. Au moment que j'ai passé le petit portail de la cour, une voix dans mon cœur m'a dit, tu ne tueras point. Là, c'était à Roland, mon catéchiste, qui revenait à la surface. Et là, j'ai eu tellement peur ce jour-là de mourir. Et je me dis, si je meurs, je vais aller en enfer, moi. Donc, j'ai jeté. J'ai eu trop peur. Donc, j'ai jeté et son chien l'a mangé. Une heure après, il était raide. Alors, j'ai dit à mon copain, si tu ne veux pas subir le même sort que le chien de mon père, alors dégage de ma vie. Et je ne l'ai jamais revu. Il est parti. Et là, j'étais aussi embêtée parce que je n'en étais pas habituée. Moi, je ne savais pas trop ce qui était passé dans mon corps. J'ai écrit à ma mère pour lui dire que j'attends un bébé, j'ai besoin de ton aide. Et moi, elle m'a fait répondre par ma cousine, que pour elle, j'étais morte. Et pour toute la famille, c'était idem. Donc je n'avais plus aucun secours à attendre de ma famille. Et ce jour-là, c'est pareil, toute la journée, ma patronne, elle avait reçu du monde pour l'anniversaire de sa fille. J'étais très fatiguée, toute la journée, j'avais comme quelqu'un dans mon dos qui me disait, tu vois bien, tes parents t'aiment pas, Dieu t'aime pas. Si j'étais toi, j'en finirais avec la vie. Et ce soir-là, c'est pareil, j'ai voulu m'en finir avec la vie, parce que j'ai dit, c'est vrai, qu'est-ce que ça vaut la vie dans ma situation. Et là, j'ai voulu aussi encore me suicider. Et j'ai voulu prendre un tube de cardinal tout neuf. Le tube est tombé par terre, je n'ai pas pu l'ouvrir. Et moi, je suis tombée sur mon lit foudroyée par un sommeil que je n'ai jamais compris. Et cette nuit-là, j'ai fait un songe. Quelqu'un me disait, si tu n'es pas bien là, viens dans la maison. Et moi, j'ai dit, mais elle est où ta maison? Et j'ai entendu les cloches de mon village sonner, de mon église sonner, qui était pas loin. Il était 3h30 du matin. Parce que à l'époque, la messe pour les hommes était à 4h, parce que les hommes travaillaient dimanche. Je me suis levée. Et toute peur de rencontrer mon père avait disparu, mais lui, je savais qu'il était devant, mais moi, je suis restée au fond, derrière un gros pilier, pour pas qu'il me voie. Et là, l'après-midi, le curé nous invitait à revenir. Quand je suis revenue chez ma patronne, je lui ai dit, cet après-midi, je vais à l'église. Et là, elle m'a dit, si tu vas à l'église, je te mets à la porte. Ben, elle lui dit, ben, on verra bien, j'irai quand même. Parce qu'il fallait pas me dire quelque chose, je faisais toujours le contraire quand j'étais jeune. Donc, je suis allée à l'église, et là, ben, je crois que le Seigneur savait exactement qu'est-ce qu'il faisait, parce qu'il avait préparé quelqu'un. Il y avait une grande procession, c'était une procession à Saint-Joseph. Donc tout le monde suivait, et moi je marchais un peu en arrière avec une petite sœur religieuse qui marchait à côté de moi. Et elle avait dit à un moment donné, je ne comprends pas, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Elle m'a dit, je suis là depuis ce matin, je n'ai pas vu de religieuse de mon ordre. Je lui ai dit, je ne sais pas d'où vous venez, mais il n'y a pas de religieuse dans ce pas-là. En fait, je lui ai dit, mais d'où c'est que vous venez? Elle m'a dit, je viens de Saint-Denis, de la capitale, et elle devait aller dans un endroit qui s'appelle la Plaine des Carmes, dans les montagnes. Mais je lui ai dit, ici, ce n'est pas la Plaine des Carmes, vous êtes au tampon. Elle me dit, ah bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai dit, moi, ma soeur, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, hein, je ne sais pas quoi faire de la mienne, alors la voix, ça ne m'intéresse pas. Donc elle est venue voir ma patronne, et là, ma patronne m'a dit, je te mets à la porte. Et cette soeur m'a dit, bah, tu n'as qu'à venir avec moi. Je savais qu'elle allait dans un endroit, mais je ne savais pas où elle allait. Puis on a commencé à marcher, la nuit est tombée, et à un moment donné, j'ai dit, ma soeur, là où on va, il y a plein de forêts, moi j'ai peur. Et elle m'a dit, nous allons prier. Ah, j'ai dit, ça, c'est pas ma tasse de thé. J'ai dit, moi, je prie pour vous. Et elle me dit, nous avons un père, que si nous lui demandons quelque chose, il nous le donne. Je lui dis, ma soeur, votre père, il vous a peut-être donné ce que vous lui demandez. Moi, le mien, il m'a donné que des coups, alors je lui demande rien du tout. Et elle a levé les mains, elle a commencé à prier, elle a nommé toutes les parties de son corps, et quand elle est arrivée à ses pieds, elle a dit, Père Céleste, je te rends grâce et je te bénis pour les deux jambes et les deux pieds que tu m'as donnés, je sais que c'est pour m'en servir, mais si tu nous envoyais une voiture maintenant, ce serait formidable de ta part. Et elle a dit amen. Et à ce moment, il y a un taxi qui s'est arrêté. Et là, il nous a dit, mais vous allez où comme ça? Elle lui a dit, ben, on va à la Plaine des Carmes. Elle a dit, justement, la maison m'a appelé parce que leur voiture est tombée en panne. Et il faut emmener quelqu'un à l'hôpital. Donc, il est allé chercher sa fille. Il nous a fait monter. Et quand on était assis, elle m'a dit, tu vois, quand on demande quelque chose, ah, je dis, ça, c'est le hasard. Moi, je crois pas. Hein. Et j'y croyais toujours pas. Et donc on est arrivé donc dans l'endroit et toutes les sœurs qui étaient là accueillies, leur petite brebis perdue là. Et moi j'étais cachée derrière et elle dit, et ça, qu'est-ce que c'est? Elle dit, ma mère, c'est une petite qui ne sait pas où aller. Et j'ai pris la liberté de l'emmener. Mais elle dit, mais vous n'y pensez pas, ma fille, qu'elle lui dit, ici, c'est une maison de redressement, une maison de correction. Ben j'étais mal tombée, mais moi j'ai pas, je ne suis pas. Elle m'a dit, on ne peut pas te garder. J'ai dit, ma mère. Quelqu'un m'a dit de venir dans sa maison, j'y suis et j'y reste. Elle m'a dit, c'est formidable. Et elle m'a envoyé me coucher à l'infirmerie. Et le lendemain, elle est venue me voir avec une assistante sociale. Moi, au début, je voulais leur dire que mes parents étaient morts. J'ai dit non, ils habitent à tel endroit. Et ils sont allés voir mon père. Et quand cette soeur est arrivée chez mon père lui a montré un fusil qui était accroché. Il lui a dit, voyez ce fusil, ma soeur, si je lui mets la main dessus, que le cimetière n'était pas fait pour les fourmis et la prison pour les chiens. Et bien, voyant cela, la soeur n'a pas voulu avoir ma mort sur la conscience, elle m'a gardée. Mais elle m'a dit, pour te garder ici, on n'a pas le droit, parce que toutes les filles qui sont ici ont été mises, placées par le juge des enfants avec un dossier. Alors elle m'a dit, pour contourner un petit peu le règlement, on va te donner un travail. m'a dit, tu viens travailler. J'ai dit, moi, tout ce que vous me demandez, je le ferai. Alors, elle m'a dit, ce sera pas un travail très compliqué. Et là, alors, sur le site, il y avait beaucoup de pavillons. Donc, il y avait des filles qui avaient tué, qui avaient volé, qui avaient fait un tas de choses, et qui étaient trop jeunes pour aller en prison. Mais il y avait un pavillon où il n'y avait que des jeunes filles avec des bébés. Et moi, elle m'a mis dans ce pavillon-là. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Et donc, voilà, elle m'a dit, elle m'a remis un gros trousseau de clés et elle m'a dit, tous les soirs, tu dois fermer les portes et mettre des barres sur les fenêtres et des cadenas. Et le matin, tu dois ouvrir les portes pour libérer les filles qu'elles aillent dans les ateliers. Et dans la journée, tu aideras la puéricultrice avec les bébés. Moi, ça allait très très bien. Et donc, c'est ce que je faisais. Tous les soirs, je fermais les portes, le matin, j'ouvrais. Et puis après, je travaillais avec Benoît, la puéricultrice. Mais avec nous, il y avait une autre fille qui avait 18 ans. Et puis, un jour quand même, j'ai dit, peut-être 15 jours que j'étais là, tout allait très bien. Je me dis, quand même, il faut que j'aille voir la sœur pour lui dire que j'attends un bébé. Donc j'ai frappé et j'ai dit, ma mère, il faut que je vous avoue quelque chose. J'attends un bébé. Parce qu'elle m'a dit, parce que tu crois que je ne m'en étais pas aperçue. C'est pour ça qu'elle m'avait mis là avec les autres. Donc je faisais mon travail. Et cette fille, donc Marie-Lise, qui avait, elle, 18 ans, moi j'étais récalcitrante, mais là j'avais trouvé encore plus récalcitrante que moi, elle faisait tout le contraire du règlement. Et un jour, j'ai dû lui mettre une note, et ce qui lui a valu une semaine de cachot. Quand elle est ressortie du cachot, elle m'a soulevée, parce que c'était une fille qui était énorme, grande, moi j'étais pas très épaisse. Elle m'a soulevée du sol, elle m'a dit, toi si tu me cherches des poux, tu vas me trouver. Je lui ai dit, je ne te cherche pas de poux, moi je lui ai dit, tu fais ton travail, et moi je fais le mien. Et elle me dit, tu sais pourquoi je suis ici? Je lui dis, je n'ai pas le savoir et je ne veux pas le savoir. Elle m'a dit, je vais te le dire, ça va peut-être te calmer et tu me fiches la paix. Elle me dit, à 14 ans, j'ai trucidé ma grand-mère de 3 coups de couteau. Donc elle a été mise dans un pavillon, elle s'était évadée et elle est revenue enceinte et donc elle était se retrouver avec des filles avec des bébés. Parce que les filles qui avaient des bébés, ce n'étaient pas des filles qui étaient méchantes. Et ces filles qui avaient des bébés, elles avaient entre 12, 13, 14 ans. La plupart étaient enceintes de leur père, de leur frère ou des gendarmes de l'île. Et quand elles étaient enceintes, la famille les mettait à la rue et les assistantes sociales les emmenaient là jusqu'à leur majorité. Donc les bébés étaient quand même occupés et les filles qui ne savaient pas lire souvent, elles avaient aussi, il y avait des institutrices qui venaient pour les apprendre à lire. Donc pour elles, c'est une bonne chose. Et puis pour moi, le temps d'accoucher va arriver, on va m'emmener à la maternité à Saint-Pierre. Et là, je vais mettre au monde un petit garçon de 4 kilos, que j'ai appelé Jean-Alain. Mais quand j'ai accouché, j'ai failli mourir de la fièvre. Et la doctoresse qui m'a soignée m'a supplié de lui donner mon bébé. Parce qu'elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle m'a dit, tu n'as pas de situation, moi je suis docteur, je vais bien m'en occuper. Je lui ai dit, je sais que vous avez une situation, que moi je n'ai rien du tout, mais ce bébé, c'est le seul trésor que j'ai au monde, et pour rien au monde, je l'abandonnerai. Elle m'a laissé rentrer. Donc, arrivée au foyer, c'était vraiment... les sœurs ont fait vraiment une très grande fête à ce bébé, parce qu'elle voulait tout être sa marraine. Elle le réveillait pour le bercer, elle me disait, il pleure. Et vraiment, il était vraiment un bébé, mais vraiment adulé par ses sœurs. Et quand Jean-La a eu 28 jours, Marie-Lise va tuer mon bébé. Et donc, c'était un dimanche. Et en plus, c'était un jour des élections. Et là-bas, chez nous, quand il y avait des élections, c'était vraiment la guerre civile. On ne pouvait pas sortir. Et le docteur n'a jamais voulu se déplacer. Donc, il a fallu que nous, on aille jusqu'à l'hôpital de Saint-Pierre avec le bébé, accompagné de la gendarmerie pour arriver à l'hôpital. Quand il a vu mon bébé, il a regardé. Oui, quand le médecin a vu le bébé, il a regardé Jean-Alain. Et lui, il n'a pas fait dit grand-chose. Il a simplement écrit... Jean-Alain Hoarau a été étouffé. Et puis, il a appelé les gendarmes, qui sont venus me chercher. Ils m'ont emmené, ils m'ont questionné toute la nuit, dans tous les sens, qu'à un moment donné, j'étais prêt à dire oui pour avoir la paix. Et il y avait une force en moi que je ne pouvais pas dire oui. Et la dernière chose que je leur ai dit, mettez-moi où vous voulez, faites de moi ce que vous voulez, je n'ai pas tué mon bébé, de toute façon, la vie n'a plus aucun sens pour moi. Où que je sois, ça m'est égal. Donc là, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont emmené à la maison d'arrêt à Saint-Pierre. Et je suis restée là pendant 3 jours. J'étais dans une cellule avec une dame. Et un matin, il y a une dame est venue nous ouvrir. Et on était dans la cour, il y avait un grand mur. Et derrière le mur, j'entendais chanter. J'ai dit à la dame, j'ai dit, c'est quand même bizarre que dans un endroit pareil, que des gens chantent. Elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais d'habitude, on ne chante pas ici. Et en fait, j'ai compris après qu'il y avait trois sœurs du foyer qui sont venues négocier ma sortie avec le directeur de prison qui ne voulait pas. Et Mère Gabrielle, qui était aussi une maîtresse femme, elle a dit, monsieur le directeur, qu'à cela me tienne, on occupera l'espace de votre jardin parce qu'on ne partira pas d'ici sans notre enfant. Et je peux vous assurer que les chants de louange, ça y allait. Hein. Et puis, est-ce que le directeur en a eu vraiment marre d'entendre ces chants de louange, ou est-ce que c'est Dieu qui est venu ouvrir ma porte, je n'en sais rien. Mais toujours est-il, là, il m'a fait appeler, il m'a dit, je te rends ta liberté pour enterrer ta victime. Et donc, les sœurs m'ont ramené à l'hôpital. Et quand j'étais arrivée à l'hôpital, une infirmière m'a mis dans mes bras mon bébé qui était nu, on l'avait autopsié, et il était recollé du sparadrap de part en part. Il était ouvert du haut en bas et recollé du sparadrap. Et quand je voyais à l'intérieur, quand j'ai tenu mon bébé dans mes bras, la rage, la haine, la vengeance est entrée dans mon cœur. Et là, j'ai dit, je tuerai la fille qui a fait ça. Et sur le bord de sa tombe, par trois fois, je lui ai dit, je te vengerai. Mais la sœur qui était dans mon dos, elle était toujours pas loin. Et elle me disait, mon enfant, regarde à Jésus sur la croix, et à la croix, il a pardonné à ses bourreaux. Je dis, ma mère, moi, je ne suis pas Jésus, et je ne pardonnerai jamais. Et puis, on est retourné au foyer. Là, les gendarmes ont voulu me reprendre, et Mère Gabrielle s'est interposée, elle a dit, vous me donnez 3 jours. Et dans 3 jours, je vous donnerai la vraie coupable. Et là, elle est entrée dans un temps jeûne de silence et de prière. Et elle m'a dit, elle est partie. Le troisième soir, elle est rentrée dans le réfectoire. Elle est venue, elle m'a dit, rends-moi mes clés. Je lui ai donné le trousseau de clés. Elle m'a bénie, elle m'a dit, maintenant tu rentres dans ta chambre. Quoi que tu entends, tu ne bouges pas. Donc, on n'a pas fermé les portes. J'ai obéi. Et à un moment donné, quand toutes les lumières étaient éteintes, j'ai entendu une porte qui s'ouvrait, puis des pas dans le couloir, et puis dans la cour, et quelqu'un qui partait. Et elle était dans la véranda, elle a vu Marie-Lise partir, elle a appelé la gendarmerie, elle a dit, il y a une fille qui vient de partir, chopez-la, ramenez-la. Donc quand Marie-Lise a été ramenée au foyer, elle a avoué avoir tué Jean-Alain par jalousie, puis pour se venger de moi. Donc cette fille va être condamnée à 20 ans de prison. Mais moi, pendant le procès, j'ai été en colère après la justice parce que j'aurais voulu qu'elle soit condamnée à la peine de mort. Et aussitôt qu'elle a été mise en prison, elle a eu un petit garçon qui avait 6 mois à l'époque, les sœurs ont emmené le bébé dans un foyer de pupilles parce que la vengeance était tellement dans mon cœur que j'étais prêt à tuer son enfant. J'étais complètement aveuglée par la haine. Et heureusement qu'ils ont emmené l'enfant parce que je me serais vengée sur lui. Et puis, il a commencé un petit travail de patience entre Sœur Gabrielle et moi. Et pendant toutes les semaines, elle m'appelait le samedi, parce que c'était jour de confession. Et elle me disait, on va pardonner aujourd'hui. Ah, elle me dit ça, certainement pas ma mère. Et elle m'attendait à la sortie, et elle me dit alors, est-ce qu'on a pardonné? Je lui dis, non ma mère, et je ne pardonnerai jamais. Et tous les samedis, pendant 6 mois, on a fait ce petit travail. Mais un jour, elle m'a appelé, c'était un mardi. Et là, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Elle m'appelle. Et elle me fait asseoir. Et elle me dit, pour la dernière fois, est-ce que tu voudrais pardonner à Marie-Lise? Non, ma mère, que je lui ai dit, et c'est parti du fond de mes tripes. Et là, je l'ai vue pleurer. Et c'est vrai que cette sœur, elle a combattu pour moi, elle m'a sorti de prison, elle m'a empêché que les gendarmes me reprennent et tout. C'était vraiment une sœur formidable. Et là, parce que je savais, je lui ai dit, mais parce qu'elle m'a dit, c'est la dernière fois que je t'appelle, parce que je m'en vais. Elle était malade du cœur, elle devait venir en France pour se faire opérer. Et là, elle voulait que je pardonne à Marie-Lise avant qu'elle parte. Et quand je l'ai vue pleurer, je lui ai dit, mais peut-être que votre maladie n'est pas si grave, vous allez revenir. Elle m'a dit, non, je ne reviendrai pas. Mais elle m'a dit, je ne pleure pas parce que je suis malade. Quand je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, elle m'a dit, je pleure parce que j'ai raté la mission que Dieu m'a confiée. Et quand je lui ai demandé quelle était cette mission, elle m'a dit te sauver. Là, il s'est passé quelque chose au niveau de mon cœur. Et pour qu'elle ait la paix, j'ai dit, bah, vous avez gagné ma mère, je vais pardonner à Marie-Lise. Elle a levé les bras, elle a dit, enfin, merci Seigneur. Mais en fait, ce pardon, il était là, mais il n'était pas descendu jusque-là. Parce que là, il avait dit, je pardonne, mais là, c'était toujours la haine, la vengeance, la colère. Et comment j'allais faire que si je trouvais cette fille, qu'est-ce que j'allais lui faire passer un mauvais quart d'heure. Voilà ce que j'avais dans mon cœur. Puis elle est partie, et la petite sœur qui m'avait emmenée aussi au foyer, elle aussi, elle devait partir dans un autre foyer. Et là, j'ai vu la sœur qui l'avait remplacée, je lui avais dit, je ne veux plus rester. Parce que j'ai commencé à faire une dépression par rapport aux enfants que je voyais. Et donc elle m'a dit qu'elle comprenait, mais qu'elle ne pouvait pas me remettre comme ça dans la rue sans rien. Alors elle m'a dit, il y a un autre endroit à Saint-Denis, et c'est aussi pour s'occuper des enfants, mais ce n'est pas des enfants petits, c'est des enfants qui sont déjà à un certain âge. Et en fait, je ne savais pas qu'elle m'a envoyé là, dans un foyer, où il n'y avait que des enfants handicapés. C'était des enfants trisomiques pour la plupart. Et quand j'ai vu ces enfants, un matin, que je faisais la toilette d'une petite fille qui est maintenant, ses parents sont à Toulouse. Elle s'appelait Corinne. Elle avait 4 ans. En faisant sa toilette un matin, elle a mis ses deux petits bras autour de mon cou. Elle m'a dit, si tu savais comme je t'aime, toi. Et là, j'ai pleuré. J'ai commencé à ne plus trop regarder à mon problème, à m'occuper de ses enfants, parce que je me dis, eux, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'amour. Toi, tu as vécu quelque chose, laisse tomber, arrête de penser à tout ça. Mais c'était plus fort que moi. Et je me suis vraiment commencé à m'occuper de ses enfants, et là, je dirais que c'est dans ce foyer que Dieu avait commencé à préparer pour moi un plan de sauvetage. Bon, le temps passe, et je m'adaptais bien, les enfants m'aimaient bien, je les aimais bien. Et puis, on était 5 ou 6 filles qui travaillaient là. Et un jour, une collègue, elle me dit, la semaine prochaine, est-ce que tu veux me remplacer? Parce que son frère se mariait, j'ai dit, bah, pour moi, il n'y a pas de problème, je vais te remplacer. Donc, on n'était restés que 2 filles dans le dimanche. Un après-midi, tous les enfants étaient couchés, on était dans la véranda, il y avait une petite table avec plein de journaux. Et ma petite collègue, elle prend un petit journal, elle l'ouvre et elle me dit, c'est un journal de correspondance, si on correspondait avec des Français. Je lui dis, écoute, moi c'est fini les garçons, je ne veux plus m'en parler. Mais elle me dit, ils sont loin, ils sont en France ou en Suisse ou je ne sais pas trop où. Je lui dis, écoute, moi je n'ai pas d'argent à perdre. Elle me dit, je te donne le papier, le timbre, l'enveloppe et le crayon. Et elle m'a vraiment tellement poussé à bout avec son petit journal. Mais elle me dit, allez, cherche quelqu'un. Elle me dit, tu verras. J'ai dit, mais je ne veux pas correspondre. Et je vous assure que j'étais en colère. Après, là, j'ai pris le journal dans sa main de colère. J'ai fermé les yeux et j'ai fait comme ça sur une feuille. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'avais mon doigt sur un nom. C'était étudiant, cherche, correspondant et correspondant de tout pays pour échange d'âme, carte postale, amitié. Écrire à monsieur, il ne parlait pas de mariage, écrire à monsieur Jean-Claude Boudet, papier Paul Bert à Tours. Ah ben je lui ai dit, ben je vais lui écrire à ce monsieur Boudet, mais en lui disant qui j'étais, d'abord que j'étais une fille qui était extrêmement pauvre, qui voilà, que je n'étais pas une fille à fréquenter puisque j'avais eu un bébé, que j'étais allée en prison. Mais elle me dit, mais si tu lui dis tout ça, il ne va jamais te répondre. Ben, elle dit, c'est bien pour ça que je lui dis. Et elle a raconté plein de mensonges dans les lettres, elle a fait au moins 3-4, elle n'a eu aucune réponse. Et au bout d'une semaine, j'étais appelée dans le réfectoire à la distribution du courrier, elle me dit, la sœur, elle me dit, il y a une lettre pour Mademoiselle Waro, ça vient de Tours. Je lui dis, c'est pas possible, il ne m'a pas répondu. Mais en fait, je n'étais pas trop inquiète parce que je me dis, c'est certainement pour me dire que je suis un cas désespéré, ça n'intéresse pas. Bye bye. J'ai attendu le soir pour ouvrir la lettre, que j'étais dans ma chambre. Et quand j'ai ouvert sa lettre, j'ai pleuré parce que c'était vraiment une lettre qui était remplie de compassion. Et là, je me suis dit, ben, ce type, il doit être fou. Il n'y a pas de fille dans son pays. Mais aujourd'hui, je ne dis plus la même chose. Parce que c'est vrai qu'on dit que les voies de Dieu sont impénétrables, mais c'est vrai que lui, à 10 000 km, lui, il avait vécu des choses terribles avec sa mère, moi j'ai vécu des choses terribles avec mon père, et Dieu va nous réunir tous les deux par un lien, comme on dit, un fil invisible. Et aujourd'hui, je remercie clergé catholique et surtout notre Dieu, que le clergé catholique n'ait pas voulu de lui comme curé, sinon moi je l'aurais pas eu comme malade. Que on a vraiment un très grand Dieu, mais comme on dit, un tout petit diable qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Parce que je peux vous dire que dans ma vie, eh ben, maintenant je sais que l'ennemi a vraiment voulu me tuer dès ma naissance. Parce qu'il savait le plan que Dieu avait pour moi. Et un jour, le Seigneur va me montrer que quand je lui ai dit pourquoi il m'est arrivé toutes ces choses, il m'a dit, dès le ventre de ta mère, je t'ai appelé pour être mon témoin. Alors que le nom de Dieu soit béni aujourd'hui, qu'il m'ait appelé pour le servir dans ce monde. Amen.
Amen.
Alors, nous avons eu donc nos 6 enfants très rapidement. Mais au cours de la 6e grossesse, Rita était fatiguée, et c'est normal, bien sûr. Mais en plus, elle présentait des symptômes bizarres. Exemple, lorsqu'elle mangeait, elle laissait tomber sa fourchette, comme ça. Ou bien, lorsqu'elle avalait, souvent, elle faisait une fausse route. Ça passait dans la trachée et elle étouffait. Et puis, quand elle parlait, souvent, elle parlait du nez. Elle nasonnait comme ça, bizarre. Ça devenait incompréhensible. Ou encore, lorsqu'elle marchait, hop, il y a une jambe qui manquait. Plein de petites choses curieuses. Et le médecin disait, oh, c'est la fatigue et tout va rentrer dans l'ordre lorsque l'enfant sera né. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Notre dernière fille, Isabelle, est née par césarienne. Et en quelques semaines, Rita est devenue ce que l'on peut appeler une poupée de chiffon. Elle était en fait, donc, on va le savoir des mois plus tard, atteinte d'une maladie de muscles incurable qui s'appelle la myasthénie. Mais une forme grave et aiguë de cette maladie dont on ne connaît pas la cause et donc on ne peut pas agir sur la cause. Dans cette maladie, c'est la transmission nerf-muscle qui ne peut plus se faire. L'influx nerveux part du cerveau, se propage le long du nerf, arrive au niveau de ce qu'on appelle la jonction nerf-muscle, c'est la plaque motrice. Et pour que l'échange nerf-muscle puisse se faire, il est besoin d'une substance qui s'appelle acétylcholine. Et dans cette maladie-là, il y a un anticorps qui se dérègle et qui détruit cette substance. Les anticorps, normalement, c'est fait pour nous protéger des microbes, des virus, mais là, l'anticorps se dérègle et détruit cette substance. Donc, il n'y a plus de transmission possible entre le cerveau et le muscle. Et c'est une maladie qui atteint tous les nerfs moteurs. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça voulait dire? Rita ne pouvait plus tenir la tête droite. Elle ne pouvait plus tenir. Elle ne pouvait plus garder les yeux ouverts. Les paupières tombaient. Elle voyait très mal parce que les deux images des deux yeux ne se superposaient plus, donc elle le voyait double et flou. Quand elle parlait, au bout de quelques mots, ça devenait incompréhensible. Et puis, très vite, elle ne pourra plus mastiquer. Elle ne pourra plus avaler. Pas même sa salive. Vous voyez ? Elle ne pouvait plus fermer la bouche. Et donc, vous voyez un peu le tableau avec la salive qui coule. Elle avait la main là, elle ne pouvait pas la mettre là. Un anéantissement physique incroyable. Je prends souvent cette comparaison, il y a un aspirateur qui marche, vous le débranchez. Les toilettes, ce sont des muscles aussi. Et surtout, la respiration. Ce sont des muscles. Et les myasthéniques meurent toujours de la même manière, par étouffement. Soit que les muscles de la respiration se bloquent et l'ambulance arrive trop tard, On devait faire appel quand ça lui arrivait à une ambulance équipée qui venait de toute urgence et qui l'intubait immédiatement pour pouvoir respirer à l'aide d'une machine. Ou bien le malade avale et ça passe dans la trachée. Et bien sûr, c'est un étouffement. Et plus d'une fois, j'ai dû me précipiter sur l'aspirateur pour essayer de rattraper ce que Rita avait malencontreusement avalé. Et si je n'avais pas réussi, elle me serait morte entre les bras. Oui. Alors, elle va être hospitalisée à Tours d'abord, à Garches, près de Paris, ensuite. Mais quand elle partait, c'était toujours dramatique. Parce qu'il fallait faire extrêmement vite. Et les secondes sont longues. Donc il l'intubait et elle partait pour l'hôpital de Garches à 250 km de Tours. Et c'était toujours des hospitalisations interminables. La plus courte a été de 6 mois consécutifs, nourrie par sonde gastrique et intubée pour respirer. Mais c'était souvent 8 mois, 10 mois, 11 mois sur 12. Elle passait beaucoup plus de temps à l'hôpital que dans son propre foyer. Et puis quand je la voyais partir, je me disais, est-ce qu'elle reviendra? Est-ce que ce n'est pas la dernière fois? Alors, moi je me suis retrouvé avec 6 enfants, de 0 à 5 ans, devant faire face à une situation que je n'aurais jamais pu imaginer, d'être à la fois père et mère. Parce que j'ai fait face à cette situation. Heureusement, j'étais enseignant, donc c'est un métier quand même qui nous laisse plus de temps que d'autres. Le matin, je me levais tôt. Je réveillais les bébés, les enfants. Je les changeais, je les lavais, je les habillais, je les faisais manger. Je conduisais l'un chez une voisine, une amie, une collègue, etc. Et le soir, je faisais le mouvement inverse. Et je faisais tout ce que dans une maison, une maman fait. Vous savez, les couches et les biberons, je connais par cœur. On en rigole maintenant, bien sûr. Mais je me suis trouvé devant des situations énormes. Et pendant toute cette période, j'ai été très peu aidé. Un petit peu aidé, mais peu. Vous savez, c'est l'époque où il n'y avait pas de couche pampers encore. Hein. C'était les carrés de coton que l'on décrottait, que l'on faisait bouillir, et on langeait les enfants. Je pourrais vous faire un cours. Hein. Bon, j'ai des choses plus importantes à vous dire. Oui, c'est un long calvaire qui va commencer pour elle, d'abord, pour moi, et pour nos 6 enfants. Un long calvaire. Heureusement, physiquement, Rita ne souffrait pas. Elle n'avait aucune force, rien du tout, mais elle n'avait pas de douleur, si vous voulez. Hein, donc c'est quand même énorme, ça, déjà. Mais la plus grande souffrance de Rita, ça a été de ne pas voir grandir ses propres enfants. Parce que lorsqu'elle revenait de l'hôpital, dans son fauteuil roulant, elle était si fatiguée. Elle allait légèrement mieux parce qu'on lui avait fait de la cortisone à haute dose, tout ça. Donc elle était un petit peu mieux, mais très vite son état empirait et puis il fallait déjà songer à l'hospitalisation suivante. J'avais l'impression d'être dans un tunnel qui n'en finissait pas. Vous voyez. Alors, quand je rentrais dans ma chambre le soir, lorsque j'avais fini tout mon travail d'école, et puis que tous les enfants étaient couchés, alors souvent, là, j'avais une crise de découragement, pour ne pas dire de désespoir. Je me jetais sur mon lit et je criais à Dieu. Je le suppliais de me garder Rita. Je le suppliais d'aller à son secours. Je le suppliais de venir à mon secours. mais je ne voyais rien venir. Et comme réponse, c'était parfois un coup de fil de l'hôpital de Eugarch qui me disait, monsieur Goudet, on vous appelle ce soir parce que l'état de votre épouse est très faible. La nuit va être difficile. Je savais lire entre les lignes. On me préparait à une éventualité qui a risqué d'être fatale des dizaines de fois. Oui, j'avais, comme je disais, l'impression d'être dans un tunnel qui n'en finit pas. Mais aussi long qu'il soit, lorsque vous êtes dans un tunnel, un jour, vous apercevez un petit rond de lumière là-bas, très très loin, et vous savez que le tunnel va prendre fin. Cette petite lumière encore lointaine, en fait, c'est le Seigneur qui va venir vers nous. Et cela va se faire en plusieurs étapes. La première étape, ce fut le 7 juillet 90. Ce jour-là, un prêtre catholique qui s'appelle le père Tardif venait dans une communauté religieuse, la communauté des Béatitudes. Et ce prêtre était un prêtre très connu parce qu'il avait un charisme de guérison. Et l'une de nos amies qui habite notre village nous a invités à aller le voir et à aller l'entendre. Et donc, nous sommes allés là-bas. Rita venait de rentrer de l'hôpital, donc elle était un tout petit peu mieux, quoi. Et ça se passait dans le parc de cette communauté. Il y avait énormément de monde. Il y a eu l'office d'abord, et puis le père Tardif a commencé à prier pour les malades présents. Et il se passait des choses étonnantes. Il avait des paroles de connaissance et tout. Bon, bref, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette amie qui nous avait invités était elle-même handicapée. Elle avait des jambes énormes et elle se déplaçait en s'aidant de cannes anglaises et elle marchait à tout petit pas, comme ça. Et elle était devant moi, là, à gauche, un petit peu. Le père Tardif a dit ceci, « Il y a dans l'assemblée une dame qui est malade des jambes. Le Seigneur est en train de la toucher. Le Seigneur est en train de la guérir. » Et j'ai vu Huguette qui a commencé à bouger sur ses cannes, à dire, « Mais c'est moi !» J'étais derrière elle. Oh, une émotion incroyable. Parce que entendre le récit d'une guérison dans une cassette et voir une guérison sur une personne que vous connaissez, ça n'est pas du tout pareil. J'avais des larmes et tout ça. Et il y a eu un attroupement qui s'est fait autour d'elle. Et le père Tardif a dit, cette personne peut venir sur le podium pour montrer à tous ce que le Seigneur vient d'accomplir pour elle. Et je l'ai vu prendre ses deux cannes anglaises, les mettre sur son épaule, fendre la foule à grandes enjambées, monter très facilement les marches du podium et faire des génuflexions pour montrer à tous ce que le Seigneur venait de faire pour elle. Alors je peux vous dire que ça m'a fichu un sacré coup, mais un bon coup. Parce que c'est vrai que, suite à mon échec de mon désir d'être prêtre, oh, j'étais toujours croyant, certes, mais j'avais pris un certain recul. Et là, si vous voulez, il y a une vérité biblique qui s'est imposée à moi. Il y a une vérité biblique qui m'a pénétré. Mais vraiment, cette vérité biblique, c'est que Jésus est toujours vivant. Et que ce qu'il accomplissait il y a 2000 ans sur les routes de Galilée et de Judée, il l'accomplit toujours au milieu de nous. Et ça, vraiment, c'est rentré en moi. Mais en même temps, j'ai pris conscience que ma vie n'était pas à la gloire de Dieu. On laisse entrer dans sa vie beaucoup de choses qui ne le glorifient pas et qu'on appelle le péché. Et ça, Et déjà là, sur place, j'ai commencé à lui demander pardon. Et j'avais envie de le retrouver. J'avais envie de retrouver la ferveur de mon premier amour avec lui lorsque j'étais enfant et que je voulais être son prêtre. Alors, nous sommes rentrés chez nous. Rita n'était pas guérie. On était allé pour elle. On ne sait jamais, comme on dit. Mais c'est moi qui a été touché. Et je n'étais plus le même, si vous voulez. D'abord, j'étais habité d'une grande joie. Et je voulais, encore une fois, retrouver cette relation avec lui que j'avais perdue. Et j'ai commencé, dès le lendemain matin, à faire le ménage chez moi. Car pendant de longues années, je m'étais intéressé aux sciences occultes, aux sciences ésotériques. J'avais même été élève par correspondance d'une secte philosophique que je ne savais pas être une secte, les Rose-Croix. J'avais donc chez moi quantité de revues, de journaux, de livres. Et puis j'avais, vous savez aussi, je l'avoue bien humblement, des revues dans le tiroir de ma table de nuit que les hommes ont parfois et qui ne glorifient pas l'amour. Alors j'ai rassemblé tout ça. J'ai rassemblé tout ça et j'ai détruit. Et je savais que c'était un préalable pour que je le retrouve vraiment. Et puis, il s'est trouvé que 15 jours plus tard, nous avons pu participer à un grand rassemblement charismatique dans le sud de la France. Il y avait là énormément de monde, des milliers de personnes qui priaient à la manière des charismatiques, les mains levées. Il y avait une intensité incroyable dans la prière. Je n'avais jamais vu ça, jamais. On a vécu une formidable semaine. Et puis nous avons été témoins de guérison physique comme 15 jours plus tôt. Et puis, un soir, il y a eu un appel à la réconciliation. On nous invitait à rencontrer un prêtre ou un pasteur, quand c'était interconfessionnel, pour nous aider à nous réconcilier avec Dieu. Et moi, j'ai entendu cet appel, mais je n'ai pas donné suite. Parce que j'avais là un énorme obstacle, un non-pardon, un énorme non-pardon que je ne pouvais pas donner, quoi. Un pardon que je ne pouvais pas donner. Parce que quelques mois plus tôt, j'avais eu avec l'une de mes filles une énorme histoire que je ne vous raconte pas. C'est sans intérêt. Mais disons, au cours de cette affaire, j'avais tellement été blessé, que je disais, je ne lui pardonnerai jamais. Mais vraiment, et j'étais décidé. Mais donc je ne pouvais pas répondre. Mais tous les jours, on nous rappelait qu'il était toujours temps de faire cette démarche. Rita, qui savait que j'avais ce problème-là, priait pour moi. Et chaque jour, bien, mes résistances fondaient, je dirais. Et le dernier jour de la session, j'ai eu envie, vraiment, de rencontrer un prêtre. Et j'ai observé d'abord tous les prêtres, les pasteurs qui se trouvaient là. Et puis j'en ai vu un prêtre qui avait l'air vraiment rempli de la présence de Dieu, vraiment. Et je suis allé vers lui. Et dans ce que je lui ai dit ceci, je ne pardonnerai jamais à ma fille. Il me dit, ah bon, qu'est-ce qu'il s'est donc passé? Alors je lui ai raconté toute l'histoire, il m'a écouté. Et puis il s'est mis à prier en m'imposant les mains. Et dans sa prière, j'ai entendu ceci. Jean-Claude, le Seigneur met en toi le désir de pardonner à ta fille et à tous ceux qui ont été mêlés à cette histoire. Et puis, il a continué. Et sa dernière phrase, « Non seulement tu vas leur pardonner, Jean-Claude, mais c'est toi qui vas leur demander pardon. » On m'aurait dit ça un quart d'heure plus tôt, j'aurais dit, « Ah non, alors là, c'est moi l'offensé. Mais là, là, à ce moment-là, j'ai été inondé d'une paix et d'une joie que je ne peux vous décrire. En même temps que j'ai eu envie vraiment de tourner la page et de me réconcilier. Et dès que j'en ai eu fini, je vois Rita et je lui dis, je me réconcilie avec Sarah. Et de là-bas, nous leur avons écrit une lettre où nous leur avons demandé pardon à elle et à son copain pour les blessures réciproques que nous nous étions faites. Nous sommes rentrés chez nous le dimanche soir. Le lundi matin, ils ont reçu la lettre. 2 heures après, ils étaient chez nous. Et nous sommes tombés dans les bras les uns des autres avec beaucoup de larmes en nous demandant pardon. Et pour moi, cet événement, il a été énorme. Il a été décisif. Parce que je n'ai pas besoin de vous le dire, plutôt je vous le dirai cet après-midi. Un non-pardon dans le cœur, c'est un cancer qui vous ronge. Vous voudriez en ressortir, mais vous ne le pouvez pas, parce qu'il y a votre orgueil, il y a votre amour-propre qui vous empêche de vous humilier. Et c'est toujours l'autre qui doit d'abord demander pardon. C'est lui qui a tort. Ce n'est jamais nous-mêmes, n'est-ce pas? Vous voyez, bon, bref, j'ai eu l'impression que vraiment un énorme fardeau tombait de mes épaules. Et ce pardon que j'ai pu donner avec la grâce de Dieu va être le début des grandes bénédictions pour notre famille. Et si je m'étais obstiné? Et si j'avais dit non, je ne pardonnerai pas, est-ce qu'il y aurait eu la suite? Je ne le crois pas. Ça va entraîner d'abord la conversion de notre fille Sarah, de son copain, puis ça va faire une réaction en chaîne. Mais surtout bientôt, peu de temps après, la guérison de Rita. Alors, suite à ce que nous avions vécu là, Rita va retourner à Garches, comme d'habitude, je dirais. Mais avec mon fils Olivier, nous avons voulu nous rattacher à un groupe de prière sur Tours. Dans un premier temps, nous sommes allés de groupe en groupe pour voir. Et un jour, nous sommes arrivés dans un groupe qui s'appelle Siloé. Et après la soirée, il y a un monsieur très sympathique, très très ouvert, qui est venu vers nous, et qui nous a dit, mais vous êtes nouveau, je ne vous avais pas encore vu. Ben, je dis oui, et puis bon, je raconte notre parcours, et puis je parle de Rita, bien sûr. Vraiment, un monsieur très très accueillant. Et il me dit, ben, je vous invite, samedi prochain, à une réunion de prière et de témoignage. En fait, il m'invitait à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, dont j'avais vaguement entendu parler. Et il me dit, je suis convaincu que ça vous plaira. Une réunion des hommes d'affaires du plein évangile, c'est un peu l'équivalent masculin de Aglo, je crois. Hein, c'est un peu ça. Bref, ce samedi-là, donc, j'y suis allé avec mon fils. Et d'abord, j'ai été impressionné par l'accueil. On nous accueillait d'une manière tellement fraternelle que ça m'a beaucoup touché. Et puis, je voyais là des hommes et des femmes qui y croyaient vraiment, qui ne se contentaient pas de parler de Dieu, ils vivaient de Dieu, qui ne se contentaient pas de parler de l'Évangile, ils le mettaient en pratique dans leur vie. Et ça m'a vraiment touché. Et puis il y a eu un témoignage qui m'a bouleversé. Et puis il y a eu un appel. On nous appelait à donner notre vie à Jésus. Et là, c'est ce soir-là, donc d'octobre 90, que je me suis précipité devant. Et que vraiment j'ai plié le genou devant Dieu. Et que j'ai invité Jésus à prendre la direction de ma vie vraiment. Et que je lui ai demandé pardon pour tout mon passé. Et là, vraiment, c'est une démarche que l'on n'oublie jamais, parce qu'il y a l'avant et l'après. Ma vie va commencer à changer. Et plus je vais découvrir le Seigneur, plus je vais avoir envie de le découvrir. Et je découvrais quelque chose que je connaissais très peu, la parole de Dieu. J'avais le soif de lire la parole de Dieu. Oh, je la connaissais vaguement comme ça, mais là, c'était devenu quelque chose de vivant. Mais Rita était toujours au même point. Alors, comme cette première... Et puis, mon fils Olivier a donné sa vie à Jésus le même soir, aussi. Et puis, les mois suivants, nous avons continué de fréquenter ces réunions-là. Et un jour, l'orateur était un couple de la ville de Laval. Et il témoignait de la guérison d'un cancer. Et puis, il y a eu un appel pour ceux qui avaient besoin de prière. Et moi, j'ai fait la queue. Il y avait du monde, comme ça. Et je voyais Jeannine, la femme de l'orateur, qui me regardait souvent, alors que je faisais la queue comme ça. J'arrive devant eux et elle me dit, elle ne me connaissait pas. Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et ça m'a fortement touché. Alors, on a prié ensemble, d'abord pour Rita, bien sûr. Et puis aussi, vous savez, quand on a 6 enfants, ils sont tous adolescents en même temps. Alors, quand on en a 1 ou 2, c'est déjà pas mal, mais 6. 2 garçons, pas de problème. Sérieux, travailleurs, et tout. Mais les filles, je ne vous dis que ça. Et moi, on fait voir de toutes les couleurs, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, puis j'étais tout seul à refaire face à ça, bien sûr. Alors, donc on a prié ensemble tout ça. Bon, ils ont prié pour moi, et puis on a sympathisé. On a échangé nos adresses, et ils sont partis. Et nous arrivons alors au mois d'avril 91. Rita revient de l'hôpital, une fois de plus. Mais là, je sens que quelque chose en elle s'est brisé. Parce qu'il faut vous dire ceci, c'est que pendant ces 17 années, malgré cet anéantissement physique, il y avait en Rita une force et une joie incroyable. Incroyable. Moi, je me sentais tout petit. Et tout le travail qu'elle a pu faire à Eugache, c'est absolument fabuleux. Bon, bref. Mais là, je sens que quelque chose... Elle était découragée et je ne l'avais jamais connue ainsi. Rita n'a jamais baissé les bras, malgré cet anéantissement-là. Parce que là, les médecins étaient venus solennellement autour de son lit lui dire « Madame Goudet, nous avons tout essayé. Il faut vous faire à cette idée que vous ne remarcherez pas, il faut que vous acceptiez votre fauteuil roulant. On ne connaît pas la cause de cette maladie, donc on ne peut pas agir sur la cause. » Et si vous voulez vivre, bien, il faut que vous acceptiez la sonde gastrique à vie. Parce que là, c'était mort. Là, hein. Dans le nez d'abord, et branché directement sur l'estomac plus tard. Alors ça, elle ne voulait pas en entendre parler. Et dans les mêmes jours, je reçois une invitation de ce couple de Laval qui m'invitait donc à venir participer à une réunion des hommes d'affaires du plein évangile à Laval. Et quand j'ai reçu cette invitation, j'ai ressenti très fort en moi qu'il fallait y aller. Mais je ne pouvais pas y aller moi-même parce que j'étais enseignant et j'avais toujours des cours le samedi. Alors j'ai dit à mon fils Olivier, tu devrais y aller avec maman. C'était une chose plus facile à dire qu'à faire parce que maman, c'était une poupée de chiffon, vous savez, ça ne tient de nulle part. Hein, c'est désarticulé, quoi. Hein. Bon. Mais ce matin-là, du 20 avril 91, nous l'avons levée, préparée, habillée, mise couchée dans la voiture, et Olivier a emmené sa mère vers Laval, qui se trouve à 140 km de Tours. Dans la journée, j'avais des amis chez moi, je leur disais, oh là là, ce soir, dans quel état elle va être ? Déjà ce matin, elle était si faible, si fatiguée. Parce que comme elle refusait la sonde gastrique, ça faisait 4 jours, qu'elle n'avait ni mangé ni bu. Donc, en plus de la maladie, il y avait une faiblesse. Elle était maigre, maigre, maigre. Elle faisait 39 kilos. Et ça a bien changé. Bon, bref. Oui, je leur disais, voilà, ce soir, dans quel état, il y a 140 km à aller, 140 km pour revenir, la réunion est longue. Bon. Vers 16h30, la voiture de mon fils Olivier s'égarait dans un autre cours, et j'ai vu Rita ouvrir seule la portière. Je l'ai vu sortir les deux jambes hors de la voiture. Je l'ai vu se mettre debout et commencer à marcher vers moi d'une démarche un peu mal assurée, mais elle marchait. Elle a parcouru la vingtaine de mètres qui séparaient la voiture de notre porte. Elle a pu monter la petite côte, le petit raidillon qui se trouve devant notre porte. Elle m'est tombée dans les bras. Et depuis, elle est comme vous la voyez. Elle a été guérie instantanément de ses 17 années de maladie. Pourquoi le Seigneur a-t-il attendu 17 ans? Je lui demanderai un jour. Bon, et ça, c'est le mystère de Dieu, bien sûr. Hein. Mais c'est à un moment où on n'y croyait plus, je dirais, parce qu'on avait tellement prié. Il y avait des chaînes de prière à droite, à gauche pour elle. Rien. Et puis un jour, il a tendu sa main et il l'a retirée de la fosse. Alors, imaginez l'émotion, mon émotion, quand je l'ai vu. Ça, c'est indescriptible.
C'est vrai, on ne sait pas pourquoi Dieu attend, mais je crois que pour moi, il fallait ça. Parce que j'avais tellement de scories et de peau à enlever, ben, il lui fallait du temps, certainement. Parce que, comme je disais il y a longtemps, j'étais quelqu'un de pas fréquentable pour avoir. Mais quand je me suis retrouvée dans cet hôpital, j'ai souvent posé la question pourquoi, mais il ne m'a pas répondu. Mais un jour, quand j'étais donc... ma dernière hospitalisation, parce que quand je passais des longs moments à l'hôpital, les médecins me disaient toujours, bah, on va essayer ça, on va essayer ceci, on va essayer cela, et moi je pensais toujours qu'ils allaient trouver une solution, et je disais toujours oui à tous les protocoles qu'ils m'ont proposé, mais ce matin-là, ils sont venus pour me dire, bah, écoutez, on a tout essayé pour vous, on ne peut absolument plus rien faire, vous ne remarcherez jamais. Et si vous n'acceptez pas la sonde gastrique qu'on veut vous mettre dans l'estomac, vous allez mourir. Alors je les ai regardés de tout ce que je pouvais parler. Jean-Claude, je vous ai dit, j'en avais 39 kilos. J'étais paralysée de tous côtés que je ne pouvais pratiquement plus parler. Et là, je les ai regardés, je leur ai dit, je vous remercie de ce que vous avez essayé de faire. Mais ce que vous n'avez pas pu faire, Dieu le fera. Et là, je crois que ce matin-là, j'ai fait un acte de foi un peu malgré moi, j'en sais trop rien, mais c'est vrai qu'il m'a entendu toujours. Je crois qu'il m'a entendu à ce moment-là. Parce que quand je suis arrivée à la maison, j'étais quand même un peu désespérée, pas de me voir mon état, mais j'étais désespérée parce que je ne pouvais plus rien ni boire ni manger, je savais que j'allais mourir, et surtout de laisser Jean-Claude tout seul avec les enfants. C'était ça mon gros chagrin. Et un matin, que ma fille Nadia faisait ma toilette, et elle me dit, tu sais, maman, papa, il t'a acheté un livre. Tu devrais le regarder. Ben, je lui ai dit, donne-le-moi. Elle est allée me le chercher. Il était encore sous le plastique. C'est pas celle-là, c'est pas la mienne. C'était une un peu pareille. Et quand elle a ouvert, elle est tombée sur Jean 11. Parce que moi, je ne pouvais plus. En fait, j'avais les bras complètement recroquevillés sur moi-même. Donc, elle a ouvert et elle m'a mis un cache sur un œil pour que je puisse lire. Et j'ai eu cette parole. Ben, la résurrection de Lazare, on vient dire à Jésus dans ma vie, c'était celui que tu aimes est malade. Et là, il dit, Seigneur, ton ami est malade. Et quand j'ai vu celui que tu aimes est malade, j'ai dit à Jésus, tu vois, je suis malade, est-ce que tu m'aimes? Il ne m'a pas dit, oui, Rita, je t'aime. Mais c'est dans le verset suivant que cette maladie n'était pas pour la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Et tant bien que mal, j'ai réussi à lire tout le texte, et au verset 41, et ben, Jésus demande à Marthe, où avez-vous mis Lazare? Elle dit qu'il est dans une grotte, et il se met devant, il dit qu'on enlève la pierre. Et Marthe qui était à côté, elle dit, maître, ça fait 4 jours qu'il est là, et il sort déjà, tu te rends compte? Ben, Jésus le regarde et lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et moi, cette parole, elle est entrée dans mon cœur. Et quand j'étais arrivée dans cette réunion, ce matin-là, il y a eu un chant qui a commencé, comme tout à l'heure, quand on a commencé à louer le Seigneur. Ce chant, c'était « Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Quand j'ai entendu ce chant et je me suis rappelée de cette parole que j'avais lue, alors j'ai dit à Jésus, là, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, j'ai dit. Alors aujourd'hui, je lui ai dit, regarde dans l'état où je suis, tu connais mes pensées profondes, alors aujourd'hui, je me crois, mais je veux voir ta gloire. C'est tout ce que j'ai dit. L'orateur qui témoignait, c'était un gendarme. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il a dit, j'étais vraiment trop fatiguée pour entendre. Un quart d'heure avant la réunion, il y a Janine, René et Olivier qui ont dû m'emmener dans les toilettes, ils étaient à trois pour m'aider. Je ne pouvais rien, je tenais de nulle part. Et puis, le témoignage est terminé, il a dit voilà, maintenant la réunion est terminée. Il a fait un appel pour celui qui voulait la prière, qui vienne devant. Mon fils n'a pas dit maman, tu veux y aller? Non, il m'a poussé devant. Et là, quand je suis arrivée devant, ils m'ont posé deux questions. Ils m'ont dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir maintenant? Ben, j'ai dit oui de tout ce que je pouvais parler, hein, parce que je ne parlais pas bien comme aujourd'hui. Et ils m'ont dit aussi, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Ça, j'ai dit oui, sans savoir où Jésus allait m'entraîner. J'ai bien fait dire oui, ça c'est sûr. Et donc, ils ont commencé à prier autour de mon fauteuil. Ils ont mis tout chapitre, c'est mis autour de mon fauteuil. Et à un moment donné, quelqu'un a dit, maintenant, au nom de Jésus, reçois ta guérison, tu te lèves et tu marches. Comment? Moi, je me suis retrouvée debout, je ne le sais pas trop, mais il s'est passé quelque chose, j'ai eu l'impression que sous mon fauteuil, il y a une main qui m'a propulsée, je me suis retrouvée debout en train de danser. Vraiment complètement hébétée d'être debout, parce que dans la salle, il y avait 200 personnes. Là, il y avait une liesse qui est montée vers Dieu, il y avait des gens qui pleuraient, des alléluia, des gloires à Dieu. J'avais jamais vu une chose pareille, que moi, debout, je tournais en rond et je cherchais mon fils des yeux. Et quelqu'un m'a dit, si tu cherches ton fils, il ne t'inquiète pas, parce que lui, il est tombé par terre, il est allé comme une crêpe. Je me suis dit simplement, ah bon? Ben, moi, je me suis levée, ben, c'est lui qui est tombé. C'est tout. Et puis, donc, à midi, ça s'est terminé parce que c'était un petit déjeuner. Et là, mon fils a voulu prendre mon fauteuil. Je lui ai dit non. J'ai un compte arrivé avec lui. J'ai pris le fauteuil, j'ai plié. Et là, vous savez, quand je suis arrivée, j'avais les mains comme les deux bras comme ça. Et là, j'étais en train de faire comme les autres. Je levais le bras. J'étais vraiment. C'était pour moi une chose que je n'arrivais plus du tout à faire, à bouger les bras. Et là, j'ai pris mon fauteuil, je l'ai plié. Et comme on ferme un livre quand on a fini de le lire. Et je l'ai mis dans le corps pour bien lui signifier qu'à partir de ce moment, je n'avais plus besoin de ses services. Et nous sommes partis. Mais comme Lazare qui était 4 jours dans son tombeau, mais lui était mort, hein, j'avais pas mangé moi non plus pendant 4 jours. Et sur la route, j'ai dit à mon fils, mon estomac commençait à réagir. J'ai dit à mon fils, j'ai faim. Et lui, il m'a dit, maman, ben, c'est pas un problème aujourd'hui. Je t'emmène, c'est un jour de joie, c'est un jour de victoire, je t'emmène au restaurant. Et nous nous sommes arrêtés ben, sur le premier petit, vraiment c'était un petit parce que mon fils n'avait jamais trop d'argent sur lui. Hein. Donc c'était un tout petit restaurant et on s'est arrêté. Et quand j'ai descendu les 3 marches et là j'ai dit à la dame qui nous a accueillis, vous savez ce qui vient de m'arriver? Elle m'a dit non. Ben, je lui ai dit Jésus vient de me guérir, elle me fait ah bon? Mais je crois qu'elle m'a pas cru du tout. Non, même pas, je suis sûre qu'elle m'a pas cru du tout, parce que il y a une chose que je lui ai dit après, je lui ai dit, madame, vous avez très faim. Je lui ai dit, parce que ça fait 7 ans que je n'ai pas mangé. Et là, tu te dis, oh là là, il y a quelqu'un qui est sorti d'asile, je suis tombée sur quelqu'un qui est malade de la tête. Elle m'a dit, je lui ai dit, est-ce que vous avez des steaks dans votre frigo? Elle m'a dit, oui, je suis un restaurant. Alors je dis, puisque vous êtes un restaurant, mettez-moi le plus gros que vous pouvez trouver dans votre frigo. Parce que quand j'étais couchée avec tous mes tuyaux, je me disais toujours, quand je serai guérie, la première chose que je mangeais, ce sera un steak. Et j'ai tenu ma promesse. Et elle m'a servi un beau steak avec des haricots verts. toutes mes fonctions étaient redevenues normales. C'est comme si Dieu m'avait redonné un estomac tout neuf. Parce que juste avant cette réunion, il avait essayé de me faire manger du yaourt dilué avec du jus d'orange, tout me repassait par le nez. Je ne pouvais rien avaler. Et là, je mangeais ce steak avec ses haricots. Puis après, le repas, j'ai dit à Olivier, renseigne-toi où se trouvent les toilettes avant qu'on reprenne la route, avant qu'on sent 130 km à peu près à faire. Et là, il m'a dit, maman, ça va être très difficile. Parce qu'il m'a dit, c'est dans le sous-sol, il y a 17 marches pour descendre, c'était un escalier avec une grosse barre de fer avec, qui tournait autour, qui n'avait pas de rampe pour se tenir. Et lui, il s'est levé pour m'aider. Et là, je l'ai regardé, j'ai dit non, Olivier. Ça aussi, c'est terminé à partir d'aujourd'hui, le jour où toi, tu m'accompagnes dans les toilettes, c'est fini. C'est terminé. J'ai dit, j'y vais toute seule. Il n'était pas trop tranquille parce qu'il avait peur que je tombe. Et là, quand je suis arrivée, j'ai descendu les marches doucement parce que c'était dans le moment où j'allais me casser la pied, je suis doucement. Arrivée en bas, j'ai ouvert la porte, je suis entrée. Et là, j'ai fermé la porte sur moi. Et là, pour trois fois, je me suis assise et je me suis levée. Et je regardais mes pieds, je ne pouvais pas savoir le bonheur que j'ai eu d'être dans les toilettes toute seule. Vraiment, j'étais vraiment mais heureuse, un bonheur immense. Et là, j'ai réalisé que j'étais guérie. Et j'ai commencé à dire à Jésus, je te rends grâce, je te bénis, et je te remercie pour le cadeau que tu m'as fait. Aujourd'hui, je lui dis, ce cadeau, je veux le dire dans le monde entier. Et j'ai rajouté, où tu veux, comme tu veux et quand tu veux. Et si aujourd'hui je suis là, ben c'est pour tenir cette promesse que j'ai faite un jour à Jésus dans une toilette de Laval. Voilà. Et, mais là donc je suis rentrée à la maison, donc Jean-Claude était très ému. Parce que nous on disait sur la route comment que papa va prendre la... Mais on était pressés d'arriver à la maison rien pour qu'il voit ça. Mais quand Jean-Claude dit que j'étais comme aujourd'hui, non. Aujourd'hui je suis bien mieux que quand j'ai été guérie, parce que c'est vrai que quand on n'a pas marché depuis 17 ans, moi j'avais des petites jambes comme deux petites baguettes de tambour, là. J'étais mec comme un clou, et j'étais pas belle à voir, hein. C'est vrai, c'est ça, je me faisais peur moi-même. Et là, depuis que j'ai vraiment donné ma vie aussi à Jésus, j'avais fait cette promesse que aucun jour ne se passerait sans que je lise ma parole. Et donc, à peu près 6-7 mois après, parce que mon corps était guéri, mais mon cœur ne l'était pas encore. Mon cœur était toujours dans... Je disais, mon cœur était encore comme le piton de la fournaise, là, comme notre volcan à La Réunion, là, quand il crache sa lave. J'étais rempli de haine encore, de violence en moi et de colère. Et un matin, que je lisais la parole de Dieu, Jean-Claude était parti à un rassemblement d'hommes à Vichy, et là, je suis tombée sur le texte où Étienne se faisait lapider. Heureusement qu'on a un Dieu qui n'oublie jamais rien. Même s'il y a des années que ça s'est passé, il n'oublie jamais. Moi, j'étais en train de lire ma parole et le texte me dérangeait quelque part. Parce que je savais que dans mon cœur, je n'avais pas fait comme Étienne, Père, pendant l'heure, ne leur retiens pas ce péché, que moi, j'étais toujours en train de m'imaginer que si un jour je retrouve Marie-Lise, qu'est-ce que j'ai pour lui faire. Et là, le Seigneur, j'ai eu l'impression que dans ma chambre, il y a une présence. Quelqu'un est entré, il s'est mis assis sur le bord de mon lit, même comme un doigt invisible, qui me soulignait quelques passages. Et à un moment donné, une parole dans mon cœur me dit, « Toi, tu n'as jamais pardonné à Marie-Lise, n'est-ce pas ?»« Oh oui, bah oui, c'est vrai Seigneur. » Moi, je lui ai dit, « C'est vrai, mais je lui ai dit, je n'ai pas pardonné. » Mais je lui ai dit, de toute façon, même si je veux le faire aujourd'hui, je ne sais pas où aller, hein. J'y allais peut-être mort. Mais quand je disais ça, c'est que ça m'arrangeait bien. Et puis... J'ai pensé ce que j'avais dit à Mère Gabrielle, moi j'ai dit, j'ai dit à Mère Gabrielle que j'avais pardonné, mais c'était pour son bien. Et là, le dialogue reprend, qui me dit, tu peux mentir aux hommes, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et là, j'étais vraiment coincée, mais la crainte de Dieu aussi tombait dans mon cœur. J'ai repris ma Bible et j'ai ouvert. Mais j'ai dit, Seigneur, mais même aujourd'hui, si je veux lui pardonner, moi je ne sais pas où elle est. Hein. Et là, quand j'ai ouvert ma Bible, j'ai eu cette parole, à Dieu, rien n'est impossible. Et là, je lui ai dit, Seigneur, c'est vrai. Toi, tu es vraiment le Dieu de l'impossible. Et quand je vous dis, la crainte de Dieu était tombée dans mon cœur, là, je ne plaisantais plus avec le Seigneur. J'étais à genoux et je lui ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je voudrais lui pardonner. Mais comme je ne sais pas où elle est, mais que toi, tu es le Dieu de l'impossible, alors aujourd'hui, Je te donne mon pardon et je te demande de le porter à Marie-Lise, s'il te plaît, pour l'occasion, pardonne-moi. Et à ce moment, je me dis, j'étais à genoux, j'ai senti vraiment comme quelque chose qui m'est tombé dessus. Et là, j'ai commencé à pleurer et là, j'ai vu mon péché dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, tu vois, je suis une ingrate. J'ai dit, Jésus, il a guéri mon cœur. Et tous les jours, je dis, notre Père, pardonne-nous, Seigneur, comme je pardonne. Et j'ai dit, en plus, je te mords tous les jours. J'ai dit, regarde dans mon cœur ce que j'ai la haine, j'ai l'amertume, j'ai la vengeance, j'ai la colère. Et j'ai dit, en plus, j'ai un gros mensonge par rapport à ce... Comme je pardonne. Alors j'ai dit, aujourd'hui, Seigneur, je te donne tout ça. Je dépose toute cette boue que j'ai en moi, je te le donne, et à la place, viens remplir le vide de mon cœur par ton amour. Et à ce moment, j'ai senti vraiment la puissance de Dieu me tomber dessus. C'est comme si qu'il me plongeait dans un baril d'huile. Et je pleurais et je sentais que, comme deux mains qui ouvraient mon cœur et tout ce que j'avais de boue, de mauvais en moi qui sortait comme le volcan quand il déverse un œuvre qui part dans la mer. Et là, j'ai vraiment pleuré de tout mon cœur. Et à un moment donné, j'ai dit au Seigneur, alors tu m'as donné ton amour, mais je veux autre chose. Je lui dis, je veux que tu me donnes ton amour pour Marie-Lise. Et là, souvent, c'est comme si, que je disais, le jour, j'ai eu cette image, comme si j'avais un entonnoir au-dessus de ma tête, que quelqu'un me versait dedans comme du miel qui descendait dans mon cœur. Et l'amour de Dieu m'a envahi tellement que je me suis mise à aimer la fille qui a tiré mon bébé. Mais d'un amour incroyable. Et là, j'ai continué à prier. J'ai dit au Seigneur, écoute, tu as fait à Jean-Claude et moi la grâce d'aller un peu partout pour donner ce témoignage. Je dis, un jour, fais que Marie-Lise soit dans une assemblée, j'irai vers elle. Je la prendrai dans mes bras et je lui dirai, Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand j'ai reçu ma guérison, je faisais 4 km. Mais entre 4 km, allez, je me repose à peu près 5 minutes, parce que mes jambes étaient fatiguées. Quand j'ai donné ce pardon à Marie-Lise, à la date, j'ai eu vraiment la grande joie de ma vie de découvrir que j'ai fait 7 km sans me reposer, sans aucune fatigue. Et puis le troisième point que j'ai donné aussi comme pardon, c'est à mon père. Mais là, c'était plus qu'un pardon, j'ai pu crier à papa, parce que moi j'avais de la haine dans mon cœur pour mon père. J'avais pardonné et la grâce à Dieu, de Dieu m'a dit, si tu as pardonné à ton père, mais que si tu ne l'aimes pas, ton pardon n'est pas complet. Et je lui ai dit, tu sais pas, tu me dis ça, mais tu ne sais pas qui est mon père pour me dire ce genre de choses. Et lui m'a dit, je connais ton père, j'ai lu ton bouquin. Mais moi, j'y arrivais pas. Et un matin, après un week-end d'enseignement, j'ai voulu vraiment mettre la parole de Dieu en pratique comme il nous avait enseigné. Et j'avais demandé au Seigneur une parole et j'avais reçu de Deutéronome 8. J'étais d'accord dans la première partie, mais à la partie où il est dit que j'étais châtiée comme un père châtie son enfant qu'il aime, là j'ai dit ça, Seigneur, je ne suis pas d'accord, j'ai fermé ma Bible avec colère, je ne suis pas d'accord, j'ai dit, mon père aurait pu m'aimer un peu plus et me châtier un peu moins. Et à ce moment, c'est pareil, la crainte de Dieu m'est tombée dessus, et je suis tombée de 7h du matin jusqu'à midi, j'avais le pied de Dieu là, jusqu'à ce que je crie, je t'aime, papa. Jusqu'à ce que je crie, je t'aime, papa, laisse-moi t'aimer. Et ce que je ne savais pas, quand j'ai crié ça, que mon père est en train de mourir à l'île de la Réunion. Et Dieu va mettre un serviteur sur sa route qui va le conduire à la repentance et à la délivrance de tous ses péchés. Et mon père est mort, sauvé. Et pour ce je t'aime papa, et depuis que j'ai crié ce je t'aime papa, tous les matins je fais 12-14 km, lui il ne peut plus me suivre. Et je lui dis, si tu veux pique-niquer, il faudra que tu me rejoignes, parce que c'est moi qui porte le seul. Amen. En tout cas, je vous dis ça, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, grâce au pardon et à son amour qu'il a pour moi. Mais il n'a pas que l'amour que pour moi, il vous aime tout, pareil d'un amour infini. Aujourd'hui, je crois que Dieu vous a donné une clé. Alors saisissez cette clé, et cette clé, c'est le pardon. Si vous voulez repartir libéré, guéri, et avec une joie comme j'ai dans mon cœur, prenez la clé que Dieu vous a donnée aujourd'hui et ne repartez pas d'ici si vous avez un non-pardon dans votre cœur. C'est tout ce que je vous donne comme conclusion de ce témoignage. Qu'il vous bénisse abondamment comme il nous a bénis, Jean-Claude et moi. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen.
Alors, Rita terminait toujours son témoignage par cette phrase. Je demande à Dieu qu'un jour Marie-Lise soit dans une salle, alors j'irai vers elle, je la prendrai dans mes bras et je lui dirai: Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il s'est trouvé que au mois de novembre 98, nous sommes allés donner notre témoignage à Clermont-Ferrand. Et à l'issue du témoignage, il y a un chrétien de l'Assemblée qui est venu vers nous. On ne le connaissait pas. Il nous a dit: le Seigneur me dit de vous dire que vous allez croiser le chemin de Marie-Lise avant Noël. Et il est parti. Et quand il est parti, j'ai dit à Rita: alors là, je n'en crois pas un mot. Il a dit ça sous le coup de l'émotion, ou je ne sais pas quoi. Hein, et j'ai dit à Rita: ne te mets surtout pas ça en tête. Je lui ai dit: tu te rends compte, ça fait 34 ans que l'histoire de Jean-Alain a eu lieu là. Hein. Marie-Lise, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle est à l'île de la Réunion? Est-ce qu'elle est en France? Et si elle est en France, elle est où? On est en novembre. Et il a dit: avant Noël, je sais que tout est possible à Dieu, mais quand même. Bon, bref, avant Noël, on avait un témoignage encore à me donner, prévu pour le 12 décembre, à Paris, dans un grand groupe composé essentiellement de gens de couleur. Des Africains, des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, etc. Et Rita était convaincue que Marie-Lise allait être présente. Et moi, je faisais tout pour lui dire: écoute, ne te mets pas ça en tête, voyons. Bref, ce soir-là, il y avait énormément de monde, il y avait 800 personnes. Nous avons donné notre témoignage, un peu comme aujourd'hui. Et il ne s'est rien passé. Et nous sommes rentrés chez nous, et je lui dis: tu vois, les prophéties, il faut en prendre et en laisser. Mais elle était un petit peu déçue, quoi. Ça, c'était le 12 décembre. Trois semaines plus tard, le 4 janvier, le courrier arrive chez nous, comme d'habitude, quoi. Et machinalement, Rita ouvre une lettre, et elle commence à lire, et je vois qu'elle est prise d'une émotion intense. Je vois ses larmes couler, et je la regardais, je me faisais cette réflexion: c'est certainement un deuil. Eh bien non, ce n'était pas un deuil, c'était une lettre de Marie-Lise. J'étais à la Réunion quand vous êtes venu le 12 décembre à Paris. J'ai dû demander pardon au Seigneur pour mon incrédulité aux prophéties. Bon, bref. Et cette lettre, nous l'avons publiée dans notre second livre. Et je vous l'ai dit. Ma chère Rita, je prends mon courage à deux mains pour t'écrire. J'ai demandé ton adresse à une amie. J'étais à la Réunion quand tu es venue avec ton mari pour témoigner. Je ne voulais pas venir, mais mon amie a insisté parce que je souffre de très fortes migraines depuis longtemps. Je ne voulais pas venir parce que je n'étais pas croyante et à cause de tout mon passé. Quand tu as commencé à parler, tu as dit que Jésus était au milieu de nous, qu'il nous aimait tous et qu'il avait un cadeau pour chacun de nous. Et aussi ton mari a dit que le non-pardon était comme un cancer qui nous ronge. Moi, je t'en voulais par jalousie. Et j'en voulais aussi à Dieu pour la mort de mon fils qui a été tué dans une bagarre à coups de couteau. Dans le foyer, là, hein, cette fille, donc, Rita vous a dit qu'à 14 ans, elle avait tué sa grand-mère à coups de couteau, elle s'était échappée, elle était revenue enceinte d'un gendarme, et donc elle avait un bébé à peu près en même temps que Rita. Et comme Marie-Lise est allée en prison, le gamin a dû être placé, bien sûr, et grandir tant bien que mal, et peut-être sans doute plus mal que bien. Et vous avez entendu donc, elle dit qu'elle en voulait à Dieu pour la mort de son fils qui a été tué dans une bagarre à coups de couteau. Quand j'étais dans la salle, le Seigneur me remettait tout devant les yeux. En fait, j'ai été condamné à 20 ans de prison, mais j'en ai fait 25, toujours pour mon sale caractère. Tu as dit que tu étais récalcitrante. Eh bien, c'est pour ma récalcitrance que j'ai écopé 5 ans de plus. Autrement dit, elle est entrée en prison à 18 ans. Elle en est sortie à 43. Donc, une vie complètement laminée, quoi. J'ai changé de prénom. Personne dans la salle ne connaissait Marie-Lise parce que maintenant je me fais appeler Marceline. Tu ne m'as pas reconnue. J'ai voulu venir te voir, mais je n'ai pas osé parce que j'ai vu que tu étais devenu quelqu'un de bien et que Dieu t'aime vraiment. Si aujourd'hui je t'écris, c'est sur le conseil du prêtre que j'ai rencontré, car je lui ai fait lire la dédicace que tu m'as écrite. Notre premier livre venait de paraître 3 mois plus tôt. Donc, et beaucoup de personnes avaient acheté le livre et ils nous le tendaient pour qu'on mette une dédicace, un mot, un verset. Mais il y avait énormément de monde. Eh bien, à un moment, sans qu'on le sache encore, Marie-Lise faisait face à Rita et lui tendait le livre. Mais Rita avait tellement mis de petits mots, on était submergé qu'elle était avide. Et Marie-Lise attendait. Alors Rita s'est recueillie et elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je mets à cette femme? Et là, un verset est venu dans son cœur. Si aujourd'hui tu entends ma voix, ne ferme pas ton cœur. Alors, Marie-Lise dit ceci. Si aujourd'hui je t'écris, c'est sur le conseil du prêtre que j'ai rencontré, car je lui ai fait lire la dédicace que tu m'as écrite. Si aujourd'hui tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur. Et tu as écrit aussi, car Dieu t'aime et il te cherche. Et tu as ajouté, et Rita n'a mis cette petite phrase qu'une fois, dans les milliers de dédicaces qu'elle a mises, et moi aussi je t'aime. Et ce « moi aussi, je t'aime » est tombé sur Marie-Lise. Aussi, j'ai pleuré de tout mon cœur quand tu as dit que si Dieu répondait à tes prières et s'il te faisait le cadeau de me rencontrer, tu me dirais « Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur ». Et c'est vrai que pendant tout le témoignage, on entendait une femme, une dame qui sanglotait très fort au fond. Et c'était Marie-Lise, bien sûr. Parce que elle ne savait pas que c'était Rita qui avait donné son témoignage. Et d'un seul coup, tout son passé a refait surface, bien sûr. Je te remercie de m'avoir pardonné et je te demande pardon aussi de tout mon cœur. Pardonne-moi de ne pas te donner mon adresse car j'ai trop honte de ce que j'ai fait. Je te souhaite à toi et à ton mari beaucoup de bonheur pour 99 car tu le mérites. Tu es comblé de Dieu, car je n'ai pas pu avoir d'autres enfants. Alors Rita et moi, nous prions pour elle. Et nous demandons au Seigneur qu'un jour Marie-Lise reprenne contact avec nous. Nous savons que depuis ce temps, elle continue de fréquenter le même groupe de prière. Elle a donc dû progresser sur le plan spirituel. Donc si on voulait la retrouver, ce serait facile, mais on ne veut pas provoquer les choses. Et on demande au Seigneur, Seigneur, mets-lui à cœur un jour de reprendre contact avec nous, de façon que nous puissions l'inviter chez nous, à Fondette, à notre table, que nous puissions partager le repas avec elle, et que Rita puisse enfin faire ce qu'elle a dit des dizaines de fois, je la prendrai dans mes bras. Je lui dirai, Marie-Lise, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car Marie-Lise, et on le sent bien dans sa lettre, elle est écrasée par sa culpabilité. Et nous, bien sûr, ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour ce manteau de culpabilité vole en éclats et qu'elle puisse repartir libre en Jésus-Christ et peut-être reprendre son véritable prénom aussi. Et notre prière va plus loin encore, on dit, Seigneur, toi qui peux tout, toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui changes les cœurs, toi qui changes les circonstances, Seigneur, ce serait formidable si tu faisais en sorte qu'un jour, devant le même micro, il y ait Rita et Marie-Lise pour témoigner ensemble de la puissance du pardon, pour témoigner ensemble de la puissance de ton amour. Amen. Alors, notre témoignage est long. Et on aurait tellement de choses encore, bien sûr, à vous dire. Sachez que nous avons écrit 3 livres. Le premier, il était là et je ne le savais pas. Parce que c'est vrai que quand on vit des choses difficiles, on se croit seul. Et on dit, Dieu, tu es où? Je ne te vois pas, je ne te sens pas. Et ce n'est qu'avec le recul du temps qu'il nous est apparu comme une évidence qu'il était là au milieu de notre détresse, bien sûr. Et sur la couverture, on a mis cette image qui est très, très connue, le désert d'abord, qui symbolise toutes nos périodes, les nôtres, les vôtres, de toute vie. Un peu désertique, difficile. Les périodes de détresse, de souffrance. Et il y a une silhouette qui marche péniblement et qui se retourne et qui voit deux traces, hein, des siennes et celles de Dieu. Et en tout cas, il y a... En fait, nous sommes en train d'écrire un quatrième livre. Et il y a quelque chose que nous disons dedans et que je voudrais vous redire. C'est que l'épreuve est une bénédiction. Quand on est frappé par l'épreuve, Seigneur, délivre-moi. Oui, sans doute. Mais nous disons que l'épreuve est une bénédiction. Bien sûr, ça a été terrible, ça a été dur. Mais on ne serait pas ce que l'on est maintenant s'il n'y avait pas eu l'épreuve. Où serions-nous s'il n'y avait pas eu l'épreuve? Les épreuves acceptées nous font grandir spirituellement et elle nous purifie. Bon, voilà. Et donc, le premier livre, c'est notre témoignage, quoi. En gros, comme on vous l'a donné là, avec beaucoup d'autres choses, et en particulier tout le travail que Rita a fait à Garches. Et puis, le deuxième livre, il est là, et je le sais. Donc, c'est la suite logique. Dans le second livre, il y a la lettre que je vous ai lue, la lettre de Marie-Lise. Donc, dedans, il y a des témoignages et des mini-enseignements. Et puis, le troisième livre, il sera toujours là. Il était, il est, il le sera. Donc, celui-ci est le plus récent. Dans le silence, comme dans le tumulte, dans le calme, comme dans la tempête, dans la prospérité, comme dans la pauvreté, dans la joie, comme dans les larmes, il sera toujours là. Voilà. Et en particulier dans ce livre, il y a un long chapitre sur le pardon dont on va parler cet après-midi. Alors, ces livres sont à votre disposition là-bas. Hein, c'est... Alors, vous voyez, ce sont des livres qu'il faut, surtout le premier, qu'il faut lire, certes, c'est des livres connus, mais surtout qu'il faut offrir à des personnes de notre entourage auxquelles on ne sait pas comment parler de Dieu, ou auxquelles peut-être on n'ose pas. Parce que là, ce n'est pas du blablabla, c'est du vécu. C'est du vécu.